Il est 8h22.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, ancien patron de la DGSI, Laurent Nunez, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer quel est le dernier bilan de l'attaque d'hier soir à Strasbourg ?
Écoutez, pour l'instant, donc le bilan, nous sommes à 3 tués, 3 personnes qui ont été tuées, donc 8 blessés graves et 5 blessés légers, dernier bilan de la préfecture qui a été donné par la préfecture ce matin.
Est-ce qu'un soldat figure bien parmi les blessés ?
Oui, un soldat a été légèrement blessé puisque les soldats ont eu à faire feu contre cet assaillant.
Que pouvez-vous nous dire ce matin de la traque du tireur ? L'agence Reuters annonce une intervention en cours autour de la cathédrale de Strasbourg. Est-ce que vous la confirmez ?
Donc il n'y a pas d'intervention en cours. Je viens de m'entretenir avec le ministre de l'Intérieur qui, comme vous le savez, est sur place. Je ne confirme pas cette information, mais il y a effectivement une traque qui est en cours. D'abord, revenir sur les faits, si vous le permettez. Donc hier soir, un assaillant de 29 ans a tué 3 personnes sur le marché de Noël de Strasbourg, alors que le marché allait fermer ses portes, donc en 3 endroits, distincts. Et puis, donc, il a pris la fuite ensuite pour tenter de s'en prendre à des policiers qu'il a croisés sur sa route, sans qu'on sache vraiment s'il visait réellement ces policiers. En tout cas, il a croisé leur route et il a fait feu. Je dois signaler qu'au moment de sur la scène du marché de Noël, il a été pris, les militaires sentinelles ont riposté, donc ils étaient présents sur le marché de Noël, dont la protection est assurée, donc ils ont fait feu sur lui. Et donc ensuite,
Il aurait été blessé
selon certaines informations. Nous ne savons pas encore.
On ne sait pas.
Voilà. Nous ne savons pas encore, mais il aurait été blessé.
Et de quelles armes disposait-il ?
Nous ne connaissons pas la nature de l'arme qu'il a utilisée, mais beaucoup de témoins nous parlent d'armes de poing.
Est-ce qu'il y a une possibilité, à l'heure où nous parlons, qu'il ait quitté le territoire français, qu'il soit par exemple en Allemagne voisine ?
Écoutez, ça ne peut être exclu, mais ce que je tiens à dire, c'est que bien évidemment, immédiatement, donc le bouclage des frontières a été assuré, et de même qu'un bouclage périmétrique a été mis en place autour de la ville de Strasbourg. Mais vous comprendrez que je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que la traque de cet individu, au moment où on se parle, et là je reviens sur votre question, elle se poursuit bien sûr.
Et elle est, j'imagine, particulièrement difficile dans une zone aussi étendue ?
Oui, c'est une zone étendue. Cette traque est difficile. Elle porte sur il y a deux actions qui sont en cours. La première, une action de voie publique des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que c'était 350 fonctionnaires et militaires qui étaient mobilisés, qui seront renforcés dans la journée. Et puis il y a aussi les investigations judiciaires qui sont menées par le parquet de Paris et qui portent sur son environnement, son entourage. Voilà. Mais je ne peux vraiment pas en dire plus car la traque est en cours et priorité vraiment à la recherche de cet assaillant.
Bien sûr. Laurent Nunez, est-ce qu'on est sûr à cette heure qu'il avait une motivation terroriste ?
Je ne peux pas l'affirmer. C'était quelqu'un qui a un profil c'est un individu connu, ce qu'on appelle dans notre jargon en droit commun, c'est-à-dire qu'il était connu pour beaucoup de délits autres que des liés au terrorisme. Il n'a même jamais été connu pour des délits liés au terrorisme. Il a un casier qui est assez important donc il a fait plusieurs séjours en prison et c'est à l'occasion de ces séjours en prison que a été détectée chez lui une radicalisation, mais dans la pratique religieuse. Donc jamais de signe de passage à l'acte et c'est à ce titre uniquement qu'il était suivi de manière assez sérieuse par les services de renseignement. Donc il était suivi, mais comme beaucoup d'autres individus qui ont pu manifester une pratique radicale religieuse en détention. Donc c'est pour cela qu'il faut être très prudent. La motivation terroriste de l'acte, au moment où on se parle, n'est pas encore établie. Et moi j'invite d'ailleurs à la plus grande prudence là-dessus.
Donc il faut faire attention pour parler d'attentat.
Il faut encore être prudent pour parler d'attentat, mais bon, c'est le parquet antiterroriste qui s'est saisi, compte tenu du mode opératoire, et donc seules les investigations judiciaires permettront d'infirmer ou de confirmer cette hypothèse, mais vraiment, il faut être très 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 prudent. Beaucoup sont surpris par ce... J'entendais en venant rejoindre vos studios le commentaire que faisait Marc Trévidic, qui connaît bien ces sujets, qui voilà, on est un petit peu surpris par ce mode opératoire.
Qu'est-ce qui est surprenant dans ce mode opératoire ?
C'est un individu qui était radicalisé, encore une fois, parce qu'il tenait des propos apologiques ou prosélytes, tout simplement, c'est-à-dire qu'il incitait à la pratique de la religion sous une forme radicale en prison et rien ne permettait de détecter un passage à l'acte dans sa vie courante. Voilà, donc il faut vraiment être très, très, très prudent.
Toujours la question des signaux faibles, c'est-à-dire c'est très difficile de voir les signaux qui montrent qu'il y a un passage à l'acte, c'est ça ?
Oui, exactement, voilà, exactement. Et donc, voilà, vraiment, c'est un dossier sur lequel j'invite vraiment, vraiment à la prudence.
Factuellement, Laurent Nunez, confirmez-vous qu'il devait être interpellé hier matin par les gendarmes pour une affaire de droit commun ?
Oui, alors ça, je parle aussi un peu sous le contrôle de l'autorité, bien sûr, du pouvoir judiciaire, mais je confirme effectivement qu'une opération a été organisée hier matin pour procéder à son interpellation, comme d'autres, dans une affaire de pur droit commun, qui était une tentative d'homicide, mais vraiment, on est dans un cadre de droit commun, et c'était hier matin.
On reste prudent, mais est-ce que cette perquisition hier matin a pu être le facteur déclenchant du passage à l'acte le soir au marché de Noël ?
C'est une hypothèse parmi d'autres, mais voilà, c'était encore une fois, il faut bien que vos auditeurs comprennent que cet individu, il évoluait dans un milieu de délinquance de droit commun, même si... Il était effectivement signalé au titre de la radicalisation, mais vous savez que nous suivons énormément d'individus qui sont signalés, et le fait d'être inscrit au FSPRT, au fichier pardon, de suivi des personnes radicalisées, de faire l'objet d'une fiche S de renseignement qui vise à tracer le parcours des individus, il ne s'agit absolument pas de les interpeller, mais de tracer leur parcours sur le territoire national, le fait qu'ils soient à ce fichier ou qu'ils fassent l'objet d'une fiche de renseignement S ne préjuge absolument pas de son degré de dangerosité.
Confirmez-vous que trois de ses proches ont également été interpellés ?
Alors c'est un peu plus que trois de ses proches, hein, mais dans le cadre de l'opération d'hier matin, ce sont cinq personnes qui ont été interpellées.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a agi seul ou qu'il a des complices ou c'est encore trop tôt ?
Écoutez, c'est vraiment trop tôt.
Vous nous dites ce que vous pouvez nous dire à cette heure.
Ce que je peux vous dire, c'est que les personnes qui ont été interpellées, que vos auditeurs comprennent bien qu'il n'y ait pas de confusion, les personnes qui ont été interpellées hier matin, c'est dans le cadre d'une affaire de droit commun, c'est-à-dire une affaire de tentative d'homicide, et ça n'a rien à voir avec l'action qu'il a menée ensuite.
Laurent Nunez, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de personnes fichées S ce matin en France ?
Écoutez, les personnes qui sont suivies, qui sont inscrites au fichier de la radicalisation, c'est plus de 20 000 personnes, hein, dont 11 à 12 000 font l'objet d'un suivi actif, mais qui est variable en fonction du degré de dangerosité. Encore une fois, il faut être très prudent. L'ensemble des individus fichés n'offre pas le même degré de dangerosité.
Mais lui, était suivi particulièrement ?
Lui était suivi. Hein, il était suivi compte tenu de ce que nous connaissions de cet individu. Et donc, on a pu... il faisait l'objet d'un suivi actif, donc avec des mesures dont je ne peux parler bien évidemment à cette antenne, ce sont des mesures extrêmement confidentielles, il faisait l'objet d'un suivi.
Depuis sa sortie de prison en 2015, vous nous confirmez qu'il est sorti de prison en 2015 ?
Oui, fin 2015.
Quel est l'état de la menace terroriste au moment où on parle ? Combien d'attentats déjoués, notamment depuis le dernier en date, qui était au mois de mai, à l'Opéra, dans le quartier de l'Opéra à Paris ?
Alors, je n'ai pas le nombre d'attentats déjoués précisément depuis mai dernier, ce que je peux vous dire, c'est que on est à 55 attentats déjoués depuis la fin de l'année 2013, une quinzaine depuis le début de l'année dernière. Donc les services de renseignement travaillent et font un travail remarquable. On déjoue énormément d'attentats. Ça, il faut, et je vous remercie d'ailleurs de me donner l'occasion de le rappeler. C'est un travail formidable qui est fait. Et quant à l'état de la menace, ça reste une menace endogène avec des individus qui peuvent passer à l'action parce qu'ils accèdent à la propagande de Daesh, parce qu'ils sont incités par d'autres à le faire. Au cas d'espèce, nous n'avons, à ce moment où on se parle, aucun élément qui laisse à penser qu'on soit dans ce cas-là. C'est pour ça que nous sommes très prudents sur ce dossier. Mais l'état de la menace reste très élevé, notamment à l'approche de cette période de Noël. Nous n'avons cesse de le répéter avec le ministre de l'Intérieur. Tous les dispositifs de surveillance ont été reconduits. Et avec l'annonce qu'a faite le ministre de l'Intérieur hier soir, donc annonce actée...
On passe en urgence attentat,
annonce
c'est actée ça
en cellule interministérielle de crise présidée par le président de la République hier soir. On passe en urgence attentat.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Alors, urgence attentat, ça veut dire donc que nous sommes en vigipirate renforcée, ça veut dire qu'il y a des mesures de surveillance sur l'ensemble du territoire. Et quand on passe en urgence attentat, c'est parce que se produit un fait grave, c'était le cas hier, ou une menace grave, qui fait qu'on renforce un certain nombre de mesures. Et là, très concrètement, le dispositif militaire Sentinelle va être augmenté dans les 24 heures. On va avoir plus de militaires présents.
Combien ?
Sur le territoire. Le chiffre n'est pas fixé. Hein, donc on va le fixer dans la journée. Il y a un conseil de défense qui va se tenir à la mi-journée. On renforce les contrôles aux frontières. C'est l'autre mesure de ce passage en urgence attentat. On assurera une sécurité renforcée sur les marchés de Noël, sur l'ensemble du territoire national. Et puis, il y aura, et ça c'est une décision qui a été prise dans ce cadre-là par le préfet, le préfet compétent de Strasbourg, une interdiction des manifestations sur Strasbourg aujourd'hui.
Une dernière question, et puis on va venir à cette question des manifestations. Est-ce que vous redoutez des actions mimétiques comme on le dit.
C'est toujours le risque dans ce genre de cas, même si, encore une fois, il faut être prudent sur le caractère terroriste de cette action. Bien évidemment, on craint toujours des actions mimétiques. Et puis, on le sait depuis maintenant plusieurs années, chaque fois qu'on arrive aux périodes de fin d'année, aux fêtes de Noël, la menace est élevée. Donc forcément, notre niveau de vigilance, il doit être adapté. C'est ce que nous faisons. Et passer en urgence attentat va permettre de renforcer encore cette vigilance.
Et est-ce que passer en urgence attentat veut dire que vous interdisez toute forme de manifestation demain, après-demain et notamment samedi? Et là, on passe à la question des gilets jaunes.
Non, ne sommes pas là. Donc la mesure qui a été prise, c'est l'interdiction des manifestations à Strasbourg, hein, uniquement, aujourd'hui. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là.
Mais vous demandez aux gilets jaunes de ne pas manifester désormais dans ce nouveau contexte?
Écoutez, nous demandons aux gilets jaunes de manifester en déclarant leur manifestation, et ça depuis le début du mouvement, puisqu'on a vu qu'il y a eu de nombreux débordements qui sont liés à cette absence de déclaration, qui nous empêche d'encadrer correctement ces manifestations. Et d'une manière générale, nous demandons aux gilets jaunes de s'inscrire dans la phase de concertation et dialogue qui s'est ouverte, et notamment après les annonces du président de la République.
Mais là, le contexte a substantiellement changé, non?
Le contexte a substantiellement changé, bien évidemment, mais cette menace, elle existait déjà. Nous l'avions rappelé à de nombreuses reprises. Je rappelle quand même que nous interpellons le 13 novembre, et c'est la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire qui réalise cette opération. Nous interpellons un groupe d'individus qui projetait de passer à l'action le 17 novembre, profitant de la journée d'action des Gilets jaunes, sachant que les forces de l'ordre allaient être mobilisées par cette journée. Ce groupe voulait frapper ce jour-là. Donc la menace, elle a toujours existé et elle est toujours là.
On sait que les policiers sont fatigués, sont épuisé par ces dernières semaines de mobilisation. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à envoyer tout un contingent pour protéger les différentes villes si jamais il y a un acte 5 des Gilets jaunes samedi?
Nous y préparons, bien évidemment. On a démontré par la gestion de l'acte 4 qui a été très compliqué, avec de nombreuses violences partout en France, que les policiers surtout ont démontré, les 89 000 policiers et gendarmes mobilisés sur le territoire ont démontré qu'ils étaient prêts à faire face à ces manifestations et surtout à leur débordement, avec de nombreuses violences, avec des casseurs qui sont présents dans leur rang, parfois des militants ultra. Donc oui, nous sommes prêts, comme nous l'avons été samedi dernier, à être extrêmement mobile, à procéder à de nombreuses interpellations.
Maintenant, il y aurait 89 000 hommes qui seraient mobilisés samedi prochain s'il y avait une nouvelle manifestation?
Très honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question, parce qu'on espère quand même qu'avec les annonces qui ont été faites, les ouvertures qui sont faites, cette phase de dialogue qui doit s'ouvrir, on espère quand même que les appels à manifester seront beaucoup moins suivis, voire n'existeront plus, très honnêtement. Voilà. Bon, Et une revendication, elle s'est exprimée, elle a été entendue. À un moment, il faut qu'on retrouve une forme de normalité. Donc je ne sais pas, au moment où on se parle, répondre à la question que vous me posez de savoir si le dispositif qu'on mettra en place samedi, et j'espère bien qu'on n'aura pas à mobiliser autant d'hommes, tout simplement parce qu'il y aura une responsabilité générale dans le pays qui fera qu'on aura un peu moins de manifestations, voire même beaucoup moins.
L'AFP cite ce matin dans différentes dépêches des gilets jaunes pour lesquels cette attaque est une manipulation de l'État, je cite l'expression, manipulation de l'État donc pour nuire à la mobilisation de ces gilets jaunes. Que répondez-vous à cela?
Je suis franchement indigné par ça. Comment peut-on dire des choses pareilles? Il y a quelqu'un qui a un assaillant qui a tué trois personnes hier soir à Strasbourg, qui en a blessé gravement d'autres. Ça, il y a des personnes qui sont entre la vie et la mort. On se parle de, notamment parmi ces blessés graves, il y en a deux qui luttent pour la vie. Et je ne comprends pas comment on peut s'imaginer à ce point. Enfin, on est. Il faut nommer les choses. On est clairement dans les thèses complotistes. On avait vu d'ailleurs hein, à d'autres occasions, dans d'autres tweets, d'autres expressions du mouvement des Gilets jaunes, que parfois les thèses complotistes fleurissaient dans leur rang. On en a une nouvelle démonstration s'il le fallait, mais c'est indigne de pouvoir imaginer ça. Enfin, franchement, c'est indigne.
Marine Le Pen, ce matin, dit « Tout n'est pas fait contre le fondamentalisme ». Elle demande l'expulsion des fichés S étrangers. Bon, c'est pas le cas de l'assaillant de Strasbourg. Qu'est-ce que vous lui répondez? Tout n'est pas fait contre le fondamentalisme.
C'est faux. Depuis 2015, beaucoup a été fait en matière de lutte antiterroriste. Le président Macron, dès qu'il a accédé au pouvoir, a souhaité qu'il y ait une meilleure coopération entre l'ensemble des services de renseignement. C'est d'ailleurs dans ce cadre, à l'époque, l'époque, quand j'étais haut fonctionnaire, que j'ai été nommé directeur général de la sécurité intérieure. Il y a eu une
coordination
en juin 2017. Donc on a eu un renfort des moyens juridiques avec une loi qui nous permet, la fameuse loi du 30 octobre 2017, qui nous permet d'agir en police administrative pour les préfets, renfort des moyens budgétaires, techniques, pour permettre aux services de renseignement de mieux suivre les individus, renfort des moyens humains avec un plan de recrutement exceptionnel pour les services de renseignement. À nouveau, vous savez que ce sont des services qui voient leurs effectifs augmenter. On ne peut pas dire que rien n'est fait, c'est totalement faux. Et quant à la mesure d'expulsion des fiches S, je rappelle que la fiche S est une fiche de renseignement qui vise à suivre des individus et donc à tracer leur parcours. Et ça s'arrête là.
Oui, mais l'expulsion n'aurait pas de sens. Vous n'échapperez pas à la question de l'éventuelle faille du renseignement dans ce cas, dans le cas de l'assaillant de Strasbourg, puisqu'il était fiché S, qu'il était suivi et qu'il a pourtant pu passer à l'acte.
Si tant est que la motivation effectivement soit terroriste, pour autant peut-on parler de faille des services de renseignement? Ce sont des individus qui sont suivis. Je crois que entre suivre un individu et expulser l'ensemble des fiches S, il y a un monde. C'est le monde qui partage, qui sépare l'exercice d'une action d'une police républicaine, qui s'inscrit dans le cadre des lois de la République, et une action qui serait beaucoup plus autoritaire et à la limite de l'arbitraire. Encore une fois, la fiche S peut concerner des individus qui sont peu dangereux, et ça veille uniquement à surveiller leurs mouvements et leurs déplacements sur le territoire. Ce n'est pas un critère de dangerosité. Nous n'avons de cesse de le rappeler, mais voilà, on rentre toujours dans des polémiques.
Mieux en le redisant.
Oui. Laurent Nunez est notre invité et au standard, c'est Jean qui nous appelle. Bonjour et bienvenue, Jean.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà, je suis étonné alors que l'identité de ce tueur qui est toujours en liberté est connue par les services de police, qu'il n'y ait pas une communication. J'ai entendu parler depuis ce matin de réseau social, de psychose sur la ville de Strasbourg, je comprends, puisqu'il y a un tueur qui est en liberté. Et j'imagine qu'il serait peut-être important pour les Strasbourgeois d'avoir une identité visuelle de la personne.
Vous êtes Strasbourgeois, Jean ?
Pas du tout.
D'accord. Donc vous demandez quoi? Plus d'informations? Une identité visuelle, c'est ça ce que vous venez de dire?
Pourquoi n'y a-t-il pas une communication sur l'identité visuelle? Pour éviter une stigmatisation déjà d'une partie de la population et pour, pourquoi pas, aider les forces de l'ordre à localiser l'individu.
Merci Jean pour cette question. Laurent Nunez vous répond.
Oui, donc il y a eu bien évidemment l'identité. Donc je confirme ce que vous dit l'auditeur. Hein. Oui, l'identité est connue et la diffusion a été faite à l'ensemble des forces de l'ordre. Hein. L'ensemble des opérateurs de voie publique dans ce pays ont eu cette diffusion. Elle a été effectuée de manière à pouvoir le mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible.
Une question sur ce qui s'est passé samedi dernier. Il y a eu 2000 interpellations lors du samedi partout en France. 1700, je crois, gardés à vue, si vous me confirmez les chiffres. Est-ce qu'il y a eu des arrestations préventives, comme le dénoncent certains ténors du barreau, comme Maître Leclerc?
Non, je peux répondre aux avocats, aux ténors du barreau. Il n'y a pas eu d'interpellations préventives. C'est faux. Il faut savoir nommer les choses. Il y a eu des contrôles préventifs qui ont été effectués dans le cadre des lois de la République, sur réquisition du procureur de la République. L'idée que nous avions avec Christophe Castaner, c'était de pouvoir prévenir en amont les violences. Et donc, prévenir en amont les violences, c'est faire des contrôles pour s'assurer que ceux qui viennent dans Paris, manifester encore une fois dans un cadre non déclaré, ne viennent pas avec des armes par destination, c'est-à-dire des boules de pétanque, des marteaux, autant de projectiles que ne cessent de recevoir sur la figure les policiers et les gendarmes qui encadrent les manifestants. Donc on organise des contrôles préventifs, donc on fait ouvrir les sacs, et quand on tombe sur des personnes qui sont en possession de possibles armes par destination, ils sont à ce moment-là interpellés et placés en garde à vue pour participation donc à un groupement armé ou groupement violent, pour être plus précis sur la qualification.
Pas d'arrestation préventive,
donc,
il n'y a eu
aucune arrestation préventive. Personne n'a été empêché de circuler dans Paris dès lors qu'il n'était pas en possession de ces armes par destination. Mais quand vous vous rendez sur un lieu de manifestation avec des boules de pétanque, avec des marteaux, avec des cisailles, avec des fossiles, enfin, la liste des armes par destination est très longue. Forcément, là, il peut y avoir interpellation. Et donc, c'est vrai qu'après, dans le temps de la garde à vue, il faut essayer de caractériser le fait que la personne allait bien participer de manière violente à un rassemblement. C'est parfois plus difficile à établir en procédure. Et donc, ce qui fait qu'un certain nombre d'individus ont pu être laissés libres, et ce qui laisse à penser à ces avocats qui exploitent un petit peu ce filon pour expliquer que les interpellations étaient préventive. Non, il n'y a pas d'interpellation préventive, il y a des contrôles préventifs. Et d'ailleurs, nous l'avons fait dans de nombreuses villes en France où ça a produit beaucoup d'effets. Ça a permis de faire baisser l'intensité de violence. Et personnellement, avec le ministre de l'Intérieur, nous en félicitons.
Les avocats, et je pense notamment à Maître Leclerc, grande figure et du barreau et de la lutte pour les droits de l'homme, disent que, considérant le nombre de personnes interpellées, ça conduit de fait à une interdiction de manifester. Je dis bien de fait, vu les chiffres. Que lui répondez-vous ?
C'est totalement faux. Enfin, le nombre d'interpellations est sans rapport avec les personnes qui étaient sur l'espace public.
Pour ces personnes-là. Hein.
Bien évidemment. Et quelqu'un qui arrivait tout à fait normalement n'était absolument pas interpellé, n'était absolument pas retenu. Vous savez, nous, avec Christophe Castaner, nous sommes garants de la sécurité. D'abord aussi des personnes qui veulent participer à des manifestations, fussent-elles non déclarées. C'est aussi notre travail d'assurer leur protection et puis surtout garant de la protection des forces de l'ordre. Je crois que la violence dont ils font l'objet maintenant depuis le 17 novembre à l'occasion des débordements qui se produisent lors de cette manifestation, elle est inouïe. Beaucoup nous disent qu'elle est totalement inédite, notamment le 1er décembre à Paris. La plupart d'entre eux nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc voilà, ça pèse assez peu par rapport aux considérations qui ont été exprimées et cette suspicion que nous ne respections pas les lois de la République est assez insupportable.
Alors, il y a des avocats également, Laurent Nunez, qui se mobilisent contre l'usage de la grenade lacrymogène Gli F4 dont la dangerosité est réelle. Ils demandent à ce que ces types de grenades ne soient plus employés lors des prochaines manifestations, s'il y en a. Là encore, que répondez-vous à ces avocats ?
Alors, il faut que vos auditeurs comprennent bien que les policiers donc sont parfois violemment pris à partie. C'est le cas dans les manifestations en cours. C'est aussi le cas, malheureusement, lors de certaines manifestations de lycéens, où il y a des prises à partie systématiques de manifestants, donc de policiers, pardon. Et donc, on utilise des moyens qui sont des moyens proportionnés, qui sont des moyens dits non létaux, c'est-à-dire qui ne visent pas à tuer. Et il y a plusieurs types de moyens de défense. La grenade lacrymogène étant ce dont il est fait usage le plus régulièrement. Il y a aussi le lanceur de balles de défense qui peut être utilisé. Et puis certaines grenades, certains types de grenades que vous avez citées, qui ne sont utilisées que dans des conditions exceptionnelles, lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie pour se désengager, pour éviter qu'il n'y ait des blessés ou des tués parmi les policiers. Donc voilà, donc ça se passe sur autorisation. Et malheureusement, il y a eu effectivement un certain nombre d'individus blessés, mais qui essaient de renvoyer sur les forces de l'ordre les projectiles qu'elles reçoivent. Et c'est à ce moment-là que se produisent des incidents que, bien évidemment, nous déplorons. Ce sont des faits extrêmement graves. Mais nous avons besoin, nous aussi, d'assurer la sécurité de nos policiers et des gendarmes. C'est fondamental.
Parmi les blessés, il y a eu des journalistes. Beaucoup de journalistes ont été blessés. Vous avez été saisi par plusieurs syndicats de journalistes qui ont dénoncé, je cite, une gestion calamiteuse de par les forces de l'ordre et en tout cas de leur protection. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Alors, sur la protection des journalistes, bon, c'est vrai que les journalistes sont au contact, hein, donc nous les intégrons dans le dispositif de protection. C'est quelque chose d'important. Donc nous prenons en compte la présence des journalistes qui parfois sont entre les cordons des forces de l'ordre et les manifestants, voire les casseurs. Donc nous prenons bien sûr cela en compte. Certains nous ont signalé avoir fait l'objet de violence, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur.
Oui, hein, casque confisqué, voilà. Protection contre les lacrymogènes.
Sur le casque confisqué, je vais revenir, mais quand donc les journalistes disent faire l'objet de violence, mais il faut qu'ils porte plainte ou qu'il se signale à la plateforme de l'IGPN et on regardera exactement ce qui s'est passé. Vous savez, les policiers travaillent dans un cadre extrêmement contrôlé. Hein, c'est un policier, pour se déterminer pour faire usage ou pas d'un moyen de défense, il a un quart de seconde. Hein, voilà. Oui. Et donc, sur les casques, pardon, et les masques qui ont été confisqués aux journalistes, ça nous a été signalé immédiatement par un syndicat avec Christophe Castaner dès samedi matin. Ça s'est passé à Paris d'ailleurs, ce signalement. Et immédiatement, nous avons passé instruction qu'ils puissent conserver leurs casques et leurs lunettes, et ce qui a été fait.
Allez, une dernière question, Léa Salamé.
Une dernière question concernant l'assaillant de Strasbourg. Est-ce que le tireur suivi a-t-il cherché à aller en Syrie, selon vos informations ?
Alors, je vous disais que c'était je ne veux pas trop en dire parce que les investigations sont en cours, mais pour que vos auditeurs comprennent bien, quand nous disons qu'un individu est suivi parce qu'il a pu avoir un engagement prosélyte en prison et qu'il donc il est plutôt suivi à bas bruit, apparemment, et au vu des investigations que nous avons menées à ce jour, mais aussi dans les semaines passées, hein, ça n'était pas le cas. Voilà. Donc un certain nombre de recherches ont été faites, ça n'était pas le cas. Cet individu n'a pas essayé d'aller en Syrie. Mais je suis extrêmement prudent. Franchement, c'est une affaire où il faut être prudent.
Merci.
Merci beaucoup, Laurent Nunez. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et ancien patron de la DGSI.